Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 73. Mon nom est Paul Landreau et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette,
Pascal Leplan. Ben là, welcome back, Rémi.
Salut.
Ouais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé.
Ouais, ben en fait, dans la vraie vie, non, là, mais...
Ouais, mais je parle dans le podcast, ouais.
Moi, je m'attendais à pouvoir voir quelques films cette année au FNC, mais c'est pas arrivé, parce que je suis en plein dans l'organisation du Kino Cabaret. Je parle beaucoup des cabarets au travers du podcast, fait que pour ceux qui n'ont pas écouté les autres épisodes, très brièvement... c'est des films qui se font en 72 heures. C'est un festival de création. Donc, en 10 jours, il y a 36 films qui se sont faits à Montréal, en plus d'une série de microfilms. C'est ça. Puis j'ai travaillé sur mon film. Puis en plus, j'étais dans l'organisation. Fait que ça m'a beaucoup bouffé de temps. Puis j'ai même pas pu accrocher les quelques films que je voulais voir. Quentin Dupieux qui était à Montréal, Paul qui m'appelle pour me dire: Quentin Dupieux, il est là, tu peux venir là, y parler. Puis j'ai jamais pu. Fait que c'est ça, mais je suis là tout en un morceau, un petit peu fatigué, mais prêt à attaquer un nouvel épisode, là.
Fait qu'en gros, Rémi, les films que je te conseille le plus, là, c'est Why Don't You Play in Hell de Sean Sono. Ça, quand ça va arriver, il va falloir que tu le vois.
Ouais.
C'est comme si Sean Sono s'était dit: je vais faire un film que Rémi va aimer.
J'aime vraiment le style, là.
Ben ouais, c'est ça.
J'avais vu Cold Fish, puis ça m'avait comme jeté à terre, là. J'avais pas beaucoup ses premiers, là, moi. Suicide Club, ça m'a pas... je trouvais ça fucké pour être fucké, là. Même si ça frappe, mais ça reste que c'est du weird Japanese shit, là. Mais, tu sais, Cold Fish, là, c'est ça, c'est un grand film que j'ai vu dans les dernières années, là.
Puis, ben, il y en a d'autres, là. Vraiment, Guilty of Romance, ça m'avait fait un super bon effet aussi quand je l'avais visionné au FNC, justement. C'était l'an passé ou il y a 2 ans, je peux me tromper. Mais là, Why Don't You Play in Hell, ça avait gagné d'ailleurs le prix Temps Zéro. Puis, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le film italien La Grande Bellezza, qui était présenté à Cannes aussi, qui avait quand même beaucoup divisé le monde, mais c'est un espèce de gros film vraiment monumental. C'est un 2h30 avec plein d'idées. C'est une espèce de Fellini sur acide contemporain, là, avec la nightlife actuelle de Rome. Non, c'est vraiment, vraiment quelque chose.
Puis Rémi, veux-tu revenir un peu, je sais pas, ça s'est passé comment, t'as ton film au cabaret, les réactions, l'ambiance?
Ben, mon tournage, moi, ça a super bien été, là, si je vais sur mon petit nombril, là, parce que, ben, overall, les films, c'était bien impressionnant. Il y avait une super belle sélection des réalisateurs. Cette année, il a fallu qu'on squeeze, puis parce qu'on avait 3 projections au lieu de 4, fait que, tu sais, il a vraiment fallu qu'on sélectionne qui allait participer pour pas buster les soirées, pas avoir des soirées trop longues. Fait que les 36 réalisateurs qui étaient là étaient assez doués, puis on a eu vraiment des belles surprises. Puis c'est ça, moi de mon côté, j'ai décidé de faire un... Ben bon, je me lance tout le temps en me disant je vais faire quelque chose de simple, puis ça dégénère un peu, là. Puis là, ben, j'ai décidé de faire un film avec des freaks de cirque. Fait que c'est vraiment... C'est ça, là, je suis allé vers ça, puis fait qu'il y a des gros maquillages, effets spéciaux, c'est un gros tournage, là, tu sais, avec des dollies, des crane shots, puis c'était un peu comme, je me ressentais un peu comme sur le plateau des jaunes, mais dans un cabaret, dans un défi 72 heures, là. Fait que c'était... Mais finalement, la réaction était super bonne, puis c'est ça, puis il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent pour le film. En plus, le film qui a été fait dans 72 heures va avoir une belle petite distribution, là, qui s'en vient, là.
Et oh. Hey, puis une petite parenthèse comme ça, Rémi. J'ai écouté une couple de courts-métrages cette semaine, plein de courts-métrages variés, là, de plein de cinéastes différents, et j'ai vu Foutaise de Jean-Pierre Genet, puis là j'ai su c'est où que t'avais pris ton idée de générique pour The Last Day of Harold Fishman.
Ah oui, j'ai jamais vu Foutaise.
T'as jamais vu ça? Il a fait ça dans la foulée de Delicatessen. Okay. C'est avec l'acteur principal de Delicatessen, je m'en rappelle plus
son. Oui, Dominique Pinon, oui.
C'est ça, ouais. Et c'est un film en noir et blanc.
Dans tous ses films, là, c'est comme son acteur qui est vraiment dans tous ses films, même dans Alien 4. Il est,
ouais. C'est ça, c'est un petit film en noir et blanc, en fait, que pendant comme 7-8 minutes, c'est lui qui dit j'aime, j'aime pas, j'aime pas. Tu sais, un peu comme dans Amélie Poulain, là.
Oui.
Donc, c'est un peu ça. Puis le générique de début, justement, c'est dans une boucherie avec un travelling de côté, puis tous les noms sont inscrits sur des petites cartes dans dans la vitrine, en fait.
Oh, ouais! Oh, my God!
Fait que, en tenant voir ça, je pensais en fait que c'était vraiment un hommage à ça, je pensais que tu l'avais vu.
Non, non,
Mais.
je le connaissais pas du tout, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Ben, contrairement à vous, je pense, moi, je suis un grand, grand fan de Genet, fait
Ben,
que.
honnêtement, je pense que son style, ça marche vraiment bien en court-métrage, puis foutaise, c'était vraiment excellent. Donc,
Cool.
petite parenthèse, sinon, là, on sort du FNC, on a pris un petit 10 jours de congé, un peu, là, une petite semaine de congé, parce que, bon, c'est quand même beaucoup d'organisation puis de travail, mine de rien. Sans compter que certains d'entre nous, IE, moi, on a notre session aussi à gérer. Mais donc, bref, on est de retour et on a à peine le temps de se reposer qu'il y a déjà deux gros festivals qui s'en viennent.
Ben oui.
Cinémania du 7 au 17 novembre. On n'a pas encore la programmation, ça va sortir le mercredi 30 octobre. On sait déjà que c'est ça, le passé en film d'ouverture, ça a très bien. Je
Oui.
pense que c'est Grand Central en film de clôture, ça me dit rien, mais c'est supposé être très bon. Et ce que j'ai trouvé très drôle, en fait, j'ai vu aujourd'hui, il y avait le film Gala, sa présentation spéciale, pour le film En solitaire avec François Clouzet. Et si vous allez voir le synopsis ou l'affiche, en fait, ça a l'air vraiment de la version française de All Is Lost avec Robert Redford qui vient tout juste de sortir au Massilito FNC, là.
Ouais, puis il y a vraiment des bonnes critiques aussi, puis ça fait quand même drôle aussi que ce film-là sorte un peu justement dans la foulée de Gravity. On n'est pas
Ouais.
dans l'espace, c'est sûr, mais en même temps, on parle d'un film qui a quand même beaucoup, beaucoup de similarités, là. Tu sais, c'est l'homme tout seul en mer, il arrive de quoi, on est pratiquement en temps réel, l'homme, la nature, entre guillemets, là. Sauf que bon, c'est sûr que dans All Is Lost, c'est régi par nos lois physiques, alors que dans Gravity, je pense que le tour de force du film, c'est vraiment d'explorer ben, l'espace, justement, là, puis
Hey, moi,
un
ça, je l'ai
autre.
vu, hein.
Ouais.
Genre, j'ai pas pu en reparler, mais. Waouh!
Lequel t'as
En
vu?
fait.
All Is Lost?
Non, non, Gravity.
Ben, en fait,
Je
on
sais
n'en
que
a
vous
pas parlé
en
au
avez parlé,
podcast.
mais.
Non, on n'en a pas parlé au podcast.
Non?
Ben non.
On a glissé un mot rapidement, mais ok, vas-y donc, Rémi, qu'est-ce que t'as pensé de Gravity?
My God, ouais, ben, c'est ça, c'était un méchant spectacle, là. C'était, excusez-moi, j'ai comme coupé un peu
Non, 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 c'est
le
correct.
flow, mais je me rendais compte que j'avais pas mis mon opinion là-dessus. Ben ouais, je suis allé le voir en IMAX 3D, fait que je pense que
Oh
c'était la façon
yeah!
de le voir, là. Ouais, je suis allé voir la totale, puis je dirais que juste les failles elles-mêmes, c'est ben on a parlé un peu hors podcast, là, mais d'après moi, c'est qu'il y a vraiment, vraiment trop de musique, là. C'est moi qui dis ça, là, mais je trouve vraiment que, tu sais, une force dans Children of Men, bon, je vais pas trop comparer, mais quand même, là, une force dans Children of Men, c'est qu'il a pris des grosses scènes d'action, puis il a coupé toute la musique, donc il a vraiment juste laissé l'image nous guider. Puis, tu sais, il aurait dû faire la même chose dans Gravity. À la fin, c'était comme, à Mané, ça devient là, vraiment assourdissant. Puis ça devient trop hollywoodien. Tu vois qu'il y a probablement un producteur en arrière qui pousse pour ça. Puis sinon, beaucoup trop de monologues de personnages là, qui se parlent à eux-mêmes, puis
Ouais.
qui expliquent qu'est-ce qui se passe. Là.
Ah, ça
Ça, c'est
oui, ouais.
les deux affaires qui m'ont gossé. Mais sinon, bon, c'est un
Puis.
gros spectacle. C'est assez hallucinant. Là. Le plan séquence d'ouverture, ça finit plus. Puis. Je suis allé voir après sur Internet comment ils ont fait, là, c'est n'importe quoi, là, comment ils ont fait les tricks de caméra, c'est vraiment, les acteurs portent même pas de costume, c'est des espèces de gros suits avec des points dessus vraiment pour guider tout ce qui va être en 3D après, mais les costumes d'astronautes sont entièrement faits à l'ordi. Ça m'a vraiment fait flipper, là, c'est.
Non, c'est clair. Puis d'ailleurs, pour les dialogues, moi aussi, c'est peut-être le point que je reproche le plus, là, de comme tout expliquer ce qui est en train de se passer et puis, tu sais, de dire les sentiments. Puis je me
De
demande
vivre,
si.
on screen.
Ouais, puis je me demande juste si, comme une voix off, plutôt que, tu sais, une personne qui parle, ça aurait été peut-être plus réaliste ou. Parce qu'il y a de quoi de. Tu sais, il y a une volonté. Tu sais, la volonté technique, justement, de faire de quoi plus ou moins en temps réel, tu sais, des longs plans séquences, tu sais, de quoi de très crédible aussi au niveau de la manière que, tu sais, la physique, ça marche, au niveau de la gravité, tout ça. Bon, c'est sûr qu'il va y avoir plein de, tu sais, de personnes qui peuvent me
De
dire non,
geek,
mais ouais,
ouais.
ça marche pas parce que telle loi, etc. Mais en ce cas, moi, qui n'étais pas du tout un scientifique, je trouvais que c'était vraiment là, très crédible comparé à bien des trucs. Qu'on a vu, bien les films de science-fiction. Mais le côté, justement, c'est au niveau où je trouve des personnages que c'est moins crédible. T'sais, Sandra Bullock, je veux dire. Pis, pourtant, des fois, le film, il y a des longs silences, c'est là, je pense que c'est le film est le meilleur. T'sais. Comme je pense, par exemple, il y a une séquence vraiment hallucinante où Sandra Bullock essaie de démarrer une espèce de petite capsule et il y a comme une espèce de parachute qui est coincé dans un satellite, puis là, bon, il y a comme un jeu de va-et-vient. Mais pendant tout ce temps-là, elle fait juste comme, tu sais, elle crie ou elle se démène, mais elle est pas comme, oh non, mon parachute est bloqué. Mais il y a d'autres moments dans le film que justement, c'est comme, ah, oh, il me reste seulement 7 minutes d'oxygène, il faut que je me dépêche. Puis c'est vraiment là, tu sais.
Oh, it's getting hot in here.
Ouais, c'est ça.
Oh, mais toute cette scène-là, en plus, ils ont décidé de pas bruter les explosions, là. C'est vraiment cool qu'il y ait un film de science-fiction qui a eu le guts de presque pas mettre de son. Il y a des espèces de sons comme sous-marins, là.
Ben, ça, ouais. Ça, c'est parce que c'est comme les vibrations qu'elle, elle ressent.
Ouais, ouais.
Parce que dans le fond, à l'intérieur de son saut, elle entend, entre guillemets, les vibrations qui sont causées par tout le reste, là.
Parce qu'à un moment donné, pas de son, ça devient lourd un petit peu aussi, là. Tu veux quand même maintenir le spectateur au cinéma. Ouais. Mais je trouve ça cool qu'elle ait laissé ça comme ça, qu'elle ait laissé ça, pas de son, pas de grosse explosion. Ouais, c'était vraiment edgy, là.
Non, le sound design est vraiment ingénieux. La musique, tu l'as dit, moi, ça a étonnamment peut-être pas autant dérangé que toi. C'est quand même bizarre. Mais moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, en fait, ben, écoute, c'est parce qu'il faut lui mettre l'étiquette qu'il faut, tu sais. Science-fiction, est-ce qu'on parle de science-fiction? Tu sais, je veux dire, je comprends qu'on est dans l'espace, mais en même temps, c'est que ça sert vraiment de toile de fond parce que c'est vraiment un thriller d'action. Tu sais, on va se le dire. Donc, si on s'attend. Maintenant, on comparait à 2001, tu sais, de l'espace. Je pense que non, là, on est à côté de la plaque complètement parce que tu sais, 2001, c'est s'il y a de l'action dans 2001, tu sais, de l'espace, dites-moi où est-ce qu'il est. Puis, je veux dire, à part le fait que peut-être qu'on va chercher une certaine poésie dans les planètes, dans le bal des satellites ou des stations spatiales ou des vaisseaux, à part de ça, je veux dire.
Il y a quand même une certaine séquence à la fin de 2001, justement, que tu sais, il y a un gars qui dérive dans l'espace.
Oh, ouais, non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Par rapport à celle-là, peut-être, mais je veux dire, globalement, je trouve que c'est un peu. C'est un peu lancé à tout hasard, je trouve, la comparaison avec 2001. Par contre, le film commence, justement, tu l'as dit, le plan séquence d'introduction, il y a quelque chose, il y a un rythme très lent, on est dans l'espace, c'est très beau, t'as la planète, tu sais, c'est très poétique, justement, à travers. Puis ça, c'est vraiment rare, en fait, qu'il y a un film d'action. Parce que c'est ce que c'est, on va se le dire, va jouer dans ces eaux-là. Donc, non, c'est pas un film qui va vous faire nécessairement réfléchir, tu sais, mais c'est un film qui va chercher une certaine poésie malgré tout, puis c'est pratiquement du jamais vu pour moi.
Mm-hmm. C'est comme en un plan, il y a l'introduction des personnages, il y a l'événement déclencheur, il y a comme. Tout se passe en un plan, en fait, puis après ça, t'es rentré dans l'histoire. Tu sais, c'est un running time de 1h30, le film, là, c'est fou, là, c'est fou que tout soit condensé comme ça. Il n'y a comme pas de temps mort, là.
Ça, c'est très bien, en fait, je trouve, hein, parce que c'est très rare de nos jours qu'on ait des films américains ou des films à gros budget de 1h30, tu sais, tapant, là. Comme c'est vraiment bien construit, puis je pense que ça finit où ça doit finir, tu sais. Il n'y a pas d'espèce de prologue inutile ou d'introduction ou de flashback inutile, tu sais. C'est vraiment le récit, c'est un gros thrill ride, puis ça marche tout à fait, là. Puis je pense que tous les petits défauts qu'on peut aller chercher, selon moi, c'est juste pour dire que le film n'est pas parfait, mais ses qualités font que c'est un film à voir, puis pour moi, c'est le film, c'est le blockbuster de l'année, sans aucun doute, là.
Ouais, puis visiblement, ça fonctionne, parce que, je veux dire, là, on le critique un peu à posteriori, sauf que ça a été un gros, et c'est toujours un gros succès box-office. Puis c'est vraiment rafraîchissant qu'un film comme ça, somme toute original,
de la main de maître,
soit, en fait, justement, un blockbuster qui accote les franchises. Puis ça, c'est génial. Attends un peu, j'ai pas les chiffres devant moi, là.
Ben là, il est rendu à comme 200 millions.
C'est ça.
Pas un si gros budget que ça. On s'en doute que, tu sais, le gros du budget, c'était la post-prod, les effets visuels, etc., puis éventuellement le salaire des deux stars, mais c'est pas un gros budget comparé à tous les autres films américains, comme, tu sais, les franchises, puis...
Mais 200 millions, c'est énorme. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours bien quand un film comme Inception ou comme Gravity sont des hits, parce qu'au moins, on va ailleurs, on sort un peu de nos super-héros, on sort un peu de nos franchises, puis tu sais, on ose offrir un spectacle grand public, tu sais, qui plaît. Puis c'est un tour de force de plaire au mainstream et aux critiques, puis Gravity, ça réussit. Fait que, oui, effectivement, il y a vraiment des défauts quand le film est fini, tu sais. Peut-être que je m'attendais au chef-d'œuvre du siècle, puis je l'ai pas eu, puis c'est peut-être ça qui m'a gardé un peu froid, sauf que, somme toute, c'est un film événement, puis c'est un film dont on va se rappeler. Puis en plus, c'est un film qui plaît aux deux camps, aux critiques et au mainstream, fait.
Ouais, puis même pour ajouter à ce que t'as dit, Pascal, moi je trouve que le fait que ça puis Inception, c'est deux excellents exemples, c'est que ces deux films de cinéastes qui ont une vision, tu sais, particulière, puis qui sont battus aussi pour leur indépendance au niveau du... Bon, jusqu'à un certain point, mais je veux dire, c'est quand même couillu d'ouvrir un film avec une séquence de 17 minutes, là. Puis, tu sais, les premières minutes, c'est long avant qu'il y ait du dialogue, là. C'est vraiment comme un long plan d'introduction, puis ça fait changement des films qu'on est habitué de voir, d'action rythmée, tu sais, qu'il faut tout de suite que... tu captes l'attention du spectateur. Là, c'est comme on installe le silence pour ensuite le briser. Donc, ouais. Très bon film, Gravity.
Hey, est-ce qu'on saute du coq à l'âne complètement? Parce que c'est bientôt l'Halloween. Puis
Ouais.
après avoir parlé de Gravity, qu'est-ce que vous en dites si on parlait de James Nguyen?
Ben, écoute,
Même combat.
juste avant qu'on passe à ça, Pascal,
Ah,
juste rappeler que, parce qu'on parlait de festival, les RDM, c'est du
ok. Ah,
13,
oui.
du 13 au 24 novembre. Et voilà, donc la programmation est déjà toute en ligne, notamment une rétrospective intégrale de Marcel Ophuls en 35 mm, donc un des grands documentaristes. Moi, je le connais que de nom, là, mais il a fait des films comme Hôtel Terminus, notamment, puis c'est censé être des très bons documentaires. Entre autres, le film aussi At Berkeley, le dernier film de Frederick Wiseman, qui dure 4 heures sur l'Université de Californie. Wiseman, un cinéaste que j'adore. Puis c'est fou comment ce cinéaste-là est rigoureux dans sa démarche. Là. Il fait encore du cinéma direct là, 40 ans après Tutti Quatre Follies.
Ah oui, il a traversé les époques, il a vu ô combien d'imitateurs, puis je veux dire, il
Ouais.
est encore fidèle au poste. Non, Wiseman, c'est vraiment un incontournable dans le monde du documentaire.
Ouais. Entre autres aussi, un autre film qui a fait beaucoup le tour des festivals, qui arrive enfin à Montréal, c'est Grand-mère, Bannoy, je ne sais pas comment le prononcer dans la version originale. Un film québécois que j'ai bien hâte de voir. Et tant d'autres, en fait, en aller sur le site des RIDM, il y a vraiment une belle programmation. Moi, c'est sûr, en tout cas, je vais aller essayer d'en attraper quelques-uns et de faire peut-être un ou deux textes pour le site web. Donc, ouais, film d'Halloween, James Nguyen, c'est qui ça, Pascal?
Non, mais attends, parce que là, en fait, c'est ça, c'est que c'est l'Halloween, fait qu'il faut l'assumer dans notre podcast. Toi, Paul, justement, tu nous as conviés à une belle soirée de films d'horreur. Horreur étant un grand mot, hein, parce que je pense que l'Halloween, ça reste très festif, fait que des
Ouais.
fois, c'est le fun d'aller chercher des films qui jouent sur la mince ligne entre l'horreur et le ridicule, tu sais, c'est pour ça qu'Evil Dead est aussi bon ou ô combien d'autres films.
Mais l'horreur de base, c'est pas censé comme. C'est un mot que le monde s'en fâche souvent dedans. Pis le monde, il pense que c'est. Ça veut dire faire peur, mais c'est horreur, ça veut dire un film qui présente une situation horrifique. Fait que, tu sais, peu importe si c'est des oiseaux tueurs qui explosent, là, c'est censé être une situation horrifique. Fait que ça embarque dans la catégorie, là.
Ben, j'aime le mot sensé parce que tu sais, écoute, moi je n'avais pas vu Birdemic, le premier Birdemic. Fait que j'ai seulement vu le Birdemic, la suite. J'ai pas l'impression d'avoir rien manqué. J'ai pas l'impression d'être largué complètement. Donc, chers auditeurs, si jamais vous écoutez Birdemic 2, puis en fait, si vous avez peur d'écouter Birdemic 2, parce que vous n'avez pas vu le premier, à ce que je comprends, c'est supposément à peu près la même trame narrative que le premier Birdemic. On parle quand même d'un film culte, là, d'un film qui est adulé. Là, je parle du premier Birdemic, là, particulièrement, mais qui est vraiment adulé parce que c'est un nanar, dans le fond, parce que c'est un so bad that it's good. Écoute, par où commencer, sérieusement? Là, on pourrait tellement le décortiquer de façon hilarante, ce
Ben,
film.
le pire, là, c'est que si on veut l'approcher d'une, tu sais, d'une méthode d'auteur, là, il y a vraiment. Moi, je trouve que Birdemic 2, c'est une espèce de remake ou reboot métatextuel du premier avec. Parce qu'il y a vraiment plein de références au premier film, des acteurs qui reviennent, des personnages. Et si on exclut le fait que tu sais, c'est d'une qualité genre médiocre et que c'est absolument ridicule, il y a vraiment comme un procédé d'un auteur qui a créé son univers, là. On n'est pas loin. Moi, je trouve que c'est un Ed Wood des temps modernes. Puis même à ça serait un peu chien pour Ed Wood, là. Mais.
Ouais, vraiment.
Non, Ed Wood, au moins, il y
Mais.
avait certaines compétences techniques. Bon, tu me diras, compétences techniques, c'est beaucoup dire, là. Mais je veux dire, James Nguyen, ça va pas du tout. Le son est pire dans un film de James Nguyen en 2013 que le son pouvait l'être sur Plan 9 from Outer Space. Tu sais,
Ouais, ou
c'est
que
un
n'importe
exemple
quel
comme
film
ça.
étudiant, tu sais,
Ouais, ou que n'importe quel film étudiant.
c'est vraiment pas travaillé. Mais, puis toi, Rémi, ton rapport avec James Nguyen, t'es fan ou pas?
Ben, Paul, tu m'as acheté un DVD il y a quelques années du premier Birdemic, puis j'ai épluché tous les bonus features. Donc, j'ai vraiment appris à connaître James Nguyen, puis j'ai. C'est ça, là, il parlait de ses anciens films aussi, ses comédies romantiques, puis c'est vraiment bizarre comme univers parce En tout cas, il fait ses affaires, puis c'était tellement mauvais qu'il a vraiment eu il a eu sa réputation, là. Il était venu à Fantasia pour présenter le premier Birdemic, puis
Oh, ouais,
bon,
je savais pas.
il était sur place, il a fait un Q&A après. J'ai pas été. Moi, j'étais pas là, par exemple, j'ai vraiment manqué ça, mais ouais, il est venu comme dans la salle-là, il l'assume pleinement son film, puis je pense qu'il en est même fier. Il a l'air un peu. Il a l'air un petit peu innocent, là. Mais je pense que le 2, il a réalisé quand même, tu sais. Que le premier, je veux dire, c'est sûr qu'il se l'est fait dire là, que c'était de la merde, là. Fait que je pense qu'il est un peu plus self-aware dans le deuxième. Le premier, tu vois que c'est vraiment juste de l'incompétence totale. Celui-là, c'est de l'incompétence, mais je pense qu'il, c'est ça, il est un peu self-aware que les gens iraient un peu du film là.
Ben là, ouais, fait que, parce que là, ça serait vivre sur une autre planète de pas voir ça.
Il l'a vraiment poussé à bloc là, surtout après le premier qui a voyagé autant, puis tu sais, ça se pourrait pas là.
Ben pourtant lui, il se croit un peu comme l'espèce de l'héritier de Hitchcock là, c'est son grande idole. Il travaille justement dans les mêmes thèmes. On peut voir d'ailleurs dans ce film, c'est que des blondes qui sont les personnages féminins, c'est des blondes. Il y a encore, tu sais, c'est ça, les oiseaux évidemment, mais
qui explosent.
Ouais.
Qui explosent.
Mais qui apparaissent dans des pluies de sang.
C'est vrai, chez Hitchcock, il y a ça souvent.
non, mais je veux dire, non, mais vous savez ce que je veux dire, là. Il s'en cache pas. Il s'en cache pas de son admiration pour Hitchcock. Est-ce que c'est le nouveau Hitchcock?
Non, mais même que c'est dit beaucoup dans le film, je veux dire, en plus, dans l'histoire de Birdemic 2, ça se passe vraiment à Hollywood, puis il y a toute l'espèce de. La critique là, du système hollywoodien, mais du système hollywoodien qui réussit au final, tu sais, l'espèce de système hollywoodien commercial de stars, de vedettes, de producteurs puis de gros films, ce que Birdemic n'est pas du tout. Donc, on dirait qu'il y a une espèce de petite révolution personnelle qui essaie de faire passer à travers, peut-être dans le premier acte surtout, parce qu'après ça, Hollywood devient vraiment une toile de fond pour un film de survie là, avec un VR puis puis des hommes des cavernes, puis des pluies de sang, puis j'en passe. Puis des zombies aussi, il y a des zombies dans Birdemic 2, il faut le dire. Parce que c'est vraiment important.
Les hommes des cavernes, là, c'est quand même quelque chose, ça.
Ça fait aucun sens, c'est ça. Bon, OK, regarde. À un moment donné, il y a le producteur... À un moment donné, il y a le professeur qui arrive, qui font juste le croiser. Oh, hi, producteur. Puis là, le producteur... Professeur, merci. Puis le professeur, il explique que, justement, les oiseaux préhistoriques, il s'est passé telle chose, qu'ils sont enfouis, qu'ils sont toutes dans un espèce de lac que le professeur justement contemplait comme par hasard. Puis là, il y a une pluie de sang qui réveille tous les oiseaux préhistoriques. Donc là, c'est la twist dans Birdemic 2, c'est que les oiseaux, ils viennent d'outre-tombe complètement. C'est une espèce de oiseau zombie, au fait, qui explose toujours. Là. Ça n'a pas changé. Puis finalement, à un moment donné, à quelques moments dans le film, là, pour rajouter un peu de tension, il y a d'autres pluies de sang qui arrivent. Puis à un moment donné, on ressuscite des hommes des cavernes. On est dans un cimetière, donc on ressuscite des zombies. Puis c'est ça, je sais pas. Puis le film finit en laissant présager une suite. Donc, est-ce qu'on peut parler de Birdemic, la trilogie?
Ben, moi, j'ai hâte, en tout cas, j'espère. Pourquoi pas Birdemic 3D?
Ben, c'était censé être en 3D à celui-là, de base.
Ah, c'est ça,
ouais.
Cool. Ouais, il voulait faire ça big, puis il voulait le sortir au cinéma. Never happened.
Mais j'ai écouté cette semaine d'ailleurs le très bon documentaire Best Worst Movie à propos de Troll 2, ouais. Et je crois que ce qui fait entre autres, ce qui fait qu'on aime ces films vraiment pourris, les meilleurs, tu sais, les Best Worst Movie justement, comme Troll 2 ou comme Birdemic, c'est peut-être justement l'absence de justificatif dans le scénario. Tu sais, comme un personnage fait quelque chose, tu dis pourquoi? Tu sais, pourquoi il fait ça? Ça n'a aucun sens. Mais c'est ça, il y a comme une absence. Ou pourquoi qu'à tel moment, ben là, il y a de la pluie de sang, tu sais. Ou pourquoi qu'à tel moment, il y a des zombies qui apparaissent dans le sang.
À tel moment, ils s'arrêtent et ils font « Hey, on devrait aller au zoo. » Ça arrive dans le film.
À comme 10 minutes de la fin, genre.
10 minutes de la fin, ils font « Hey, on devrait aller dans un zoo. »
Pourquoi?
Puis il y a un personnage qui dit « Pourquoi on ferait ça? » Puis l'autre dit « Il pourrait avoir des gens qui ont besoin de nous. » Fait qu'ils sortent de la place où ils sont safe pour aller dans un zoo, parler à un scientifique et revenir tout de suite dans leur caravane.
C'est ça.
Et c'est drôle parce que ça me fait penser à un autre film que j'ai vu cette semaine, Rubber, de Quentin Dupieux.
T'as vu ça aussi? Ouais,
que j'ai vraiment aimé. Et il y a vraiment un monologue au début du film à propos du No Reason. Tu sais, pourquoi il y a telle chose qui se passe, No Reason? Et Quentin Dupieux, justement, il se fait un peu le défenseur du mode d'absurde. Donc, je pense que tout ça, c'est relié, en fait. Et encore que Quentin Dupieux fait des films de très bonne qualité, selon moi. Mais ce côté justement absurde et que tu peux pas prévoir ce qui va se passer, c'est ce qui ajoute au fun. Contrairement à un film purement banal où tu sais exactement ce qui va se passer puis il y a rien d'innovateur. Au moins, un film comme Birdemic, il y a des surprises, comme qu'on le veuille ou pas, genre.
Ouais, my god. Mais là, c'est parce que, tu sais, les comédiens, ils reviennent. Les comédiens qui ont fait Birdemic 1, c'est comme tu l'as dit, puis comme on l'a dit, on pouvait croire à l'innocence un peu. Tu sais, le premier long métrage, on n'a pas de moyens, on fait vraiment ce qu'on peut. Le gars, il sait pas trop ce qu'il fait. Les comédiens, ils embarquent un peu de bonne foi. Mais là, les comédiens, là, qui reviennent, est-ce qu'ils sont vraiment de bonne foi ou est-ce qu'ils se foutent un peu? Tu sais, est-ce que dans leur jeu, ils renchérissent un peu cette espèce de côté-là? C'est que moi, comme je vous dis, j'ai pas vu le premier, puis je peux pas croire croire que Birdemic 2, ça soit pas une farce un peu, tu sais.
Ouais.
Puis comment tu peux demander ça à tes acteurs? Parce que évidemment, tous les oiseaux puis tous les dangers sont tous faits en images de synthèse. Image de synthèse, ce serait beaucoup dire, hein? disons, c'est quoi? Si on pouvait animer du paint, ça pourrait ressembler à ça.
Ouais. Mais c'est des gifs, on dirait que c'est des gifs en loop, là. Des gifs, ouais. Que tu trouves sur des vieux sites internet de 99, là.
Ouais, c'est ça.
Ça a vraiment ça. L'air de ça, mais collé dans un film.
Ouais, puis l'appui de sang, je veux dire, c'est suggéré. Il y a même pas... Une fois que le moment de puissance est passé, le sol est sec, là, je veux dire, c'est un effet de je sais pas quel logiciel automatique qui rougit l'image.
Non, c'est ça. T'sais. Mais mon point, c'est que je voulais dire, c'est comment tu dis à tes acteurs de OK, frappe dans le vide parce qu'il va y avoir des oiseaux genre qui t'attaquent. Puis c'est des longues séquences là, avec juste les filles là, en petite tenue quand même, là, puis qui font juste comme puncher dans les airs, t'sais, rien dans le fond. J'ai pas pu m'empêcher à m'amener de me dire OK, faut que je sorte un peu de ce que je visionne présentement. Pour imaginer comment c'était sur le plateau. Puis je trouvais ça tellement misérable, là. Je trouvais ça tellement... Comment tu fais pour demander ça? Comment tu fais pour embarquer, faire embarquer les gens dans ton trip? Oh, God. Fait que, ouais, Birdemic 2. Un bon film d'Halloween.
Hey, parle-moi donc de Robert un peu. Je savais pas que tu l'avais vu, Paul. Ça fit dans notre thématique Halloween, là.
Ouais. Ben, j'étais un peu curieux. Il était sur Netflix. Fait que ça faisait longtemps qu'il était comme... Tu sais, maintenant, Netflix, il y a comme Malice, là. Je sais pas si vous avez Netflix, mais en tout cas... fait que bref, je me suis tapé Robert, c'est un petit film court aussi, c'est ça qui était le fun, un film d'une heure et vingt.
C'est
vraiment pas long. Donc, c'est des fois, des petits films de même, c'est plus facile à squeezer dans mon horaire, là, à cause de, bon, l'école, etc. Fait que, non, c'était vraiment bien, en fait, puis je savais déjà le concept, là, je pense que le film est assez culte, déjà, pour qu'on sache tous que c'est un pneu tueur. Mais c'est pas que ça, en fait, hein, il y a vraiment... Pour moi, ça se rapproche d'un Cabin in the Woods, dans le sens qu'il y a vraiment une déconstruction du genre, dans un sens. Puis aussi un commentaire sur le spectatoria, puis sur comment tu sais on visionne des films. Parce que le film, c'est vraiment comme deux histoires en parallèle. C'est ça, la trame narrative du pneu qui tue. Puis d'ailleurs, c'est comme un peu quasiment un film de super-héros d'origine, là, comme le pneu comme naît, puis là, il apprend un peu à connaître ses pouvoirs. Puis c'est vraiment émouvant. Là. Il y a des plans quasiment comme de Man of Steel, avec le flair dans l'écran, puis avec une petite musique, puis le pneu qui roule, puis qui est tout content. Mais, outre cette trame-là, il y a aussi toute la trame de spectateurs dans le désert qui observent ce qui se passe à l'écran. Donc, il y a comme un niveau vraiment intéressant, en fait. Donc, pour moi, je m'attendais peut-être à un film un peu absurde, n'importe comment, puis très peu, comment je dirais ça?
Substantiel.
Ouais, mais finalement, il y a vraiment des interrogations dans le film qui sont très intéressantes, puis ça me donne vraiment le goût de voir ces autres films-là. Puis, c'est ça, c'est, à un moment donné, justement, il y a une scène fabuleuse où les spectateurs du film sont empoisonnés. Et donc, l'un des policiers dit, OK, c'est à ses autres policiers, à ses collègues, dit, bon, c'est beau, les spectateurs sont morts, vous pouvez arrêter, là, on rentre chez nous. Mais comme, donc, lui, il joue l'acteur, mais les autres personnages, eux, le regardent et ils disent, de quoi tu parles? Est-ce que ça va? Pourquoi rentrer chez nous? Fait que là, eux, il y a comme tout un double jeu de lui, il joue l'acteur, mais eux, ils sont vraiment les personnages. Donc, ça donne vraiment lieu à des scènes très intéressantes, puis vraiment comme farfelues. Je sais pas, le film aussi connaît ses limites, tu sais, justement, il est 1h20 à peu près, il y a plein de surprises pendant le film, puis on n'est pas, c'est ça, je pense que si ça avait été uniquement sur la trame du pneu, on aurait pu vraiment comme trouver le temps long, surtout qu'il parle pas, tu sais, c'est un pneu, mais comme il y a ce double jeu-là avec les acteurs, etc., ben ça fait un film vraiment intéressant qui passe très vite, puis que moi j'ai adoré, là.
Est-ce qu'on a le droit, dans le cas de Robert, de dire rolling gag ou c'est encore pas correct?
Depuis tantôt que t'attends que j'arrête de parler.
Ouais, c'est ça, je t'écoutais pas vraiment.
puis toi, Rémi, t'avais vu The Wrong aussi, puis il était dans ton top 15.
Ben, moi, j'adore, c'est pour ça que j'ai hâte de voir Wrong Cup, puis j'ai pas vu son premier film qui est Steak avec Judah et Ramsey. Mais ouais, Rubber, moi j'avais tellement adoré, justement, comme tu disais, la double trame. Là, c'est comme un film de série B, mais avec une couche d'intelligence de plus. Là. Mm-hmm. Là, on parle vraiment de pourquoi on fait un film, puis pourquoi on raconte ces histoires-là. Mais ouais. En tout cas, c'est vraiment. Ça m'a vraiment fait de quoi de manquer son dernier. Vous autres, vous l'avez pas vu?
Non.
Non, c'est ça, je l'ai pas vu voir un cop, mais j'ai entendu des bons commentaires en général. Je pense que les gens, c'est le commentaire qui revenait vraiment souvent, c'était au niveau de à quel point l'humour était efficace. Donc je pense que c'est un film qui est supposément très drôle. Puis ça, c'est un de ses points forts aussi. Je veux dire, il y a un timing qui est propre à lui. C'est un timing qui est offbeat, mais c'est pas le genre de offbeat qu'on retrouve chez Wes Anderson ou chez d'autres réalisateurs qui utilisent une espèce d'humour comme ça, ou Ghost World ou ces genres de films-là. Non, c'est vraiment une espèce de timing particulier, un genre d'humour. Oui, absurde, mais c'est ça qui est comme sur une fine couche. Puis cette couche-là, je sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment l'humour de Quentin Dupieux qui est inimitable. Et puis c'est très efficace.
J'étais allé lire un peu sur Wrong Cops. Puis il paraît qu'il a essayé de faire un film mauvais. Tu sais, qu'il a vraiment essayé de faire des cadrages un peu décalés. Vraiment, mais comme ça soit assumé que ça soit moins propre que Wrong. Mm-hmm. Ça soit vraiment inspiré des. C'est ça, là, de la série B, mais. Il a essayé de faire de la série B tout croche, là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça donne.
Tu sais, la vraie série B, au contraire, d'un Robert Rodriguez qui fait des films de série B de comme 15 millions avec plein de CGI, puis que finalement, ça fait de plus, là.
Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que ça marche pas, là, les trucs de Rodriguez, là. Des machetés, là, c'est pas trippé fort, là. Tu sais, si tu veux un vrai grindhouse ou...
Au bout, il y a shotgun dans quelqu'un.
Ouais, au bout, il y a shotgun. Tu sais, c'est des trucs comme ça. C'est un vrai grindhouse. Si tu pousses les limites, là, tu vas à des places que les gens sont pas allés. Puis tu shoots ça on the spot. Tu fais pas plein d'effets CGI. Il faut que ça te prenne des effets sur place, comme si t'as tourné les grindhouses. Tu sais, les films de Rodriguez, toujours avec des. Tu sais, la jambe en gun. Puis des trucs de même. C'est drôle, mais à un moment donné, c'est un peu too much pour s'affirmer comme un grindhouse.
Puis moi, vraiment, c'est l'inclusion du CGI. Je trouve que c'est l'antithèse même de ce qui fait les films de grindhouse, les films de série B. Je pense que le charme, justement, de ces films-là, c'est qu'au moins, t'as tout le côté animatronics ou des maquillages ou des effets spéciaux, tu sais, comme faites main, tu sais. Comme si tu passes la moitié du film avec des écrans verts, puis à faire... Je trouve... Je sais pas. C'est pas ça, pour moi, l'esprit de série B. Hein.
Vous direz ça à James Nguyen.
Ouais. Mais ça, c'est du série Z. Là. C'est pas...
Il fait ça big, là. Effet CGI tout le long.
Puis d'ailleurs, je suis au Q&A de Quentin Dupieux à l'Impérial, Rémi. Puis en tout cas, j'ai mis une couple de quotes sur notre fil Twitter. Puis entre autres, là, son prochain film s'appelle Réalité. C'est avec Alain Chabat dans le rôle titre. Mais aussi des acteurs. C'est comme mi-français, mi-anglais, le film. Puis il y a aussi des acteurs américains. Puis il y a aussi John Adair, tu sais, de Napoléon Dynamite.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, en tout cas, il fait tout le temps les castings les plus improbables, dans ce cas, du moins dans Wrong Cops, puis dans le son prochain.
Cool.
Puis, ouais, vas-y.
Ah, j'étais pour dire, pour continuer sur le sujet Halloween, en fait, moi, il y a quelque chose que je ne vous ai pas collé avant le podcast, mais j'ai écouté un vieux film d'horreur, en fait, parce qu'à ton marathon, il faut dire que j'ai écouté, moi, j'ai vu Birdemic 2.
Ouais.
Qui est un mauvais film. Puis j'ai vu un documentaire, puis j'avais comme besoin d'écouter un film d'horreur, mais tu sais, un vrai film narratif, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que j'ai écouté un film de 78. Je sais pas si vous pouvez guesser c'est quoi, là.
Halloween.
Non. Film de 78, il y a une suite réalisée par James Cameron. Le premier a été réalisé par Joe Dante.
Piranha.
Oh yeah! produit par Roger Corman. Donc, j'avais vraiment des attentes que ça soit ultra, ultra, ultra cheap. Mais écoute, c'était vraiment cool. J'ai vraiment, vraiment eu du plaisir à écouter ça. C'est de la série B. C'est un rip-off de Jaws. Mais c'est un rip-off de Jaws approved par Steven Spielberg. C'est pour ça que, d'après moi, ils ont continué à travailler ensemble après. Mais vraiment, les studios avaient essayé de poursuivre les producteurs. Ils avaient essayé de poursuivre Corman parce que c'était trop en référence à Jaws. Ouais. Mais c'est Spielberg qui a arrêté les poursuites puis il a dit « Non, 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 c'est cool. This one is cool. » Puis, ouais, mais c'est vraiment la Joe Dante, en fait, qui commence à se former parce que je pense qu'il avait fait un film avant aussi avec Corman. Puis c'est en 78, donc 6 ans plus tard, il faisait Gremlins. Fait qu'il y a vraiment un gros step qui s'est fait. Mais reste que c'est la formule de série B par excellence, mais c'est bien réalisé. C'est vraiment, vraiment bien maîtrisé. J'ai pas vu le remake d'Alexandre Aja. On a malheureusement vu la suite Piranha 3DD l'année dernière à un marathon de Paul. Puis c'était une atrocité. Là. C'était un film de, je pense, 1h05 avec un générique de fin de 15 minutes, ouais, là, pour patcher. patcher ce qui manque, là. patcher ce qui manque pour pouvoir le mettre au cinéma. Mais
Oh.
vraiment, l'original Piranha. Puis en fait, là, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte d'écouter le deuxième de James Cameron, voir si lui aussi a sa touche, mais...
Film qui maintenant il désapprouve dans un sens. Ça
Oh,
fait
il
pas
veut...
officiellement partie de sa filmographie selon lui.
Il renie, puis je pense qu'il a juste tourné pendant 2 semaines, puis s'est fait remplacer par quelqu'un d'autre. Le Corman faisait ça souvent quand les réalisateurs voulaient pas l'écouter. Faisait juste dropper le réalisateur, puis en prenait un autre pour finir le film, là. Mais c'est ça, mais Piranha 1, au moins, on voit que Joe Dante a vraiment eu le contrôle pas mal tout le long. Il y a des bébites animées en stop motion là-dedans. Il y a vraiment du délire à la Joe Dante, puis... Ben, c'est sûr. Fait que c'est une recommandation pour l'Halloween. S'il y en a qui veulent retourner voir un vieux classique, j'étais comme surpris que ça soit pas plus cheap que ça. C'est
Un peu,
vraiment...
ouais.
Les plans de caméra sont bien faits. Bon, l'histoire, ça reste que c'est... Je pense que ça suit la lignée, là. En gros, ça ouvre sur un couple qui... On sait pas trop c'est qui, là, mais c'est des backpackers qui se promènent dans la forêt, puis ils tombent sur une espèce de laboratoire, puis il y a une piscine en arrière, puis bien sûr, eux autres, ils veulent aller faire une petite saucette de nuit. Donc, ils se déshabillent tout nus, puis ils sortent dans la piscine et ils se font bouffer par des créatures mystérieuses qu'on sait que c'est des piranhas parce que c'est écrit sur la pochette du film. Puis il y a une fille qui est envoyée pour trouver ces deux-là. Vraiment, là, j'ai pas trop compris c'était quoi son lien avec eux autres, mais il faut qu'elle les trouve. Et elle finit par tomber sur le laboratoire et pour essayer de trouver les corps, ben ils vident la piscine, mais la piscine se déverse dans une rivière. Puis là, ben il y a un camp de jour. Il y a des enfants qui se font attaquer dans le film. Ils ont vraiment mis la totale, là. Fait que c'est ça, Piranha 1, 1978, Joe Dante. Recommandation pour l'Halloween, là.
Ouais.
Ben.
Et une autre recommandation pour l'Halloween, on a vu un film japonais.
J'allais dire la même chose, Pascal.
Ah ouais, ben vas-y.
Ben, justement, parlant de jazz et de films
Ouais,
inspirés
parlant
de
de jazz.
jazz. En 77, le Japon, le studio Toho, qui est un studio très réputé, tu sais, un studio prestigieux.
Ouais, c'est le havre de ô combien de grands cinéastes de l'âge d'or du cinéma japonais.
C'est ça, ont vu le succès de Jaws, réalisé à l'époque, tu sais, aux États-Unis par un cinéaste peu connu à l'époque, Steven Spielberg, et se sont dit, on devrait faire nous aussi des films, tu sais, cheap, tu sais, des films à petit budget, faits par des cinéastes peu connus. Et donc, la réponse officielle de Jaws, du Japon, en fait, à Jaws, c'est House. Le film House de Obayashi. Et c'est un film.
Hey, j'ai vu des extraits, je comprends pas comment tu le tie-in avec
Non, mais c'est ça l'affaire.
J'ai juste vu des extraits, pis c'est comme,
Ben,
qu'est-ce qui se
c'est ça
passe?
officiellement, tu sais, la raison. Est-ce qu'ils ont réussi? Ça, c'est une autre histoire.
Mais non, mais t'as peu, c'est parce que ça n'a aucunement rapport, je veux dire, en termes de facture visuelle. C'est que
En
le
termes
jeune
de tout, là, en
réalisateur, il
termes
en
de
a profité.
thème, puis...
On est vraiment plus proche des films des États-Unis, des années quasiment début des années 80. On est bien plus proche d'un One from the Heart que d'un jazz, tant qu'à ça. Non, mais c'est vrai pareil. C'est comme l'esthétique studio hyper assumée. Mais en même temps, c'est un film qui, historiquement, a été vraiment, le film House, a été vraiment rejeté, t'sais, à sa sortie, parce que justement, c'était trop décalé de tout ce que ça se fait, parce que c'est comme prisonnier en deux époques, on va y revenir quand on aura fait le synopsis, mais c'est qu'en fait, c'est que c'est un gros trip de visuel, de mise en scène. On sait pas trop à quel genre de public ça se... Est-ce que c'est plus pour les enfants? Est-ce que c'est plus pour les adultes? On n'est pas trop sûr. Mais au final, ça donne tellement un film singulier. Moi, j'ai adoré. En tout cas, Paul, je peux te laisser faire le synopsis, mais c'est vraiment une belle surprise pour moi dans mon cas.
Ouais, c'est ça. Puis, faut savoir que le cinéaste Obayashi, c'est son premier long métrage et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de films expérimentaux avant ça et beaucoup de publicité, en fait. C'était un de ceux, justement, j'ai écouté les suppléments du très beau DVD Critérion. Et tu sais, il explique que la plupart des cinéastes connus ou établis à la Toho, etc., ils voulaient pas faire des publicités, mais lui, il tripait ben trop. Fait qu'il a fait des centaines de publicités, des trucs comme ça. Et le film a vraiment un look, là, justement, publicité. Tu sais, à chaque moment, c'est dans l'éclairage, dans le côté fake, dans le côté un peu trop, tu sais, placé, puis énergique aussi, que tu as l'impression qu'on essaie de te vendre un produit quasiment, là. Donc c'est ça, Obayashi, son premier long métrage, House, c'est l'histoire de 7 jeunes filles au nom farfelu, comme il y en a une qui s'appelle Kung Fu, et bien devinez quoi, elle fait du Kung Fu. Il
Ouais.
y a Gorgeous, ça c'est la belle fille. Fantasy, Mélodie qui joue du piano,
Il y a prof, il y a les lunettes, puis qui est intellectuel.
etc. Il y a Mac pour stomach, pour estomac, donc qui mange tout le temps, puis qui est censé être
Il
grosse,
est
tu
censé être grosse, mais elle est
sais.
vraiment pas grosse,
Mais
en tout
bon,
cas.
au Japon, hein. What the fuck Japan. Et c'est ça, sept filles qui s'en vont visiter la grand-mère de l'une d'elles pendant les vacances dans sa vieille maison. Et là, ça fait vraiment aussi un peu une trame narrative de Disney, là. C'est comme un mélange de Disney, de Much Music, puis de, mettons,
Puis
Gremlins,
de
là.
films d'auteur, ouais, c'est ça, d'un film d'auteur des années 80 et de psychédélique aussi,
Ouais,
hein.
ouais, ouais.
C'est pour ça que je dis que c'est comme pogné en deux époques, c'est que si ce film-là avait été fait en fin des années 60, on aurait rentré vraiment, on aurait été chercher vraiment une espèce de public là, à l'aube des hippies, un peu
Ouais.
ce psychédélique, toute la drug culture. Puis dans les années 80, on était beaucoup plus habitués à ce genre d'esthétique-là, une espèce d'esthétique plus studio, plus placée, un genre de film peut-être un peu plus. Comment qu'on le qualifierait? En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Mais en fait, c'est que le film House, c'est un film, c'est juste simplement un film de maison hantée.
Ouais.
Et c'est très fort, ça marche très bien.
Et d'ailleurs, pour réaliser pour écrire le film, en fait, Obayashi a fait appel à sa fille qui avait 10 ans à l'époque, et il lui a demandé, parce que sa fille, elle aimait pas les films japonais, mais elle aimait beaucoup de jazz, entre autres, etc. Et elle lui a dit, c'est quoi que tu aimerais ça voir dans les films? Donc là, elle s'est mise à raconter un peu, film d'horreur. Donc là, elle s'est mise à raconter un peu les cauchemars qu'elle fait, puis les pensées qu'elle a. Donc, le scénario, en fait, est construit autour des pensées de sa fille de 10 ans. Et ça se ressent autant en mal qu'en bien, en fait, parce que le film est vraiment inventif et tu as l'impression que tout peut arriver, en fait. C'est ça qui est vraiment bien dans House, l'originalité puis la vivacité du film.
Puis aussi, c'est ça, puis comme un enfant qui pleure une seconde, puis qui sourit, puis qui rit la seconde d'après, il y a un peu, on délaisse la tradition d'une espèce de cause à effet
Ouais, ou d'une
ou une
escalade
conséquence.
même de la
Ou d'une
peur.
escalade ou de simples conséquences des actions portées. Comme par exemple, à un moment donné, justement, le personnage, bon, là, évidemment, il y a comme les jeunes filles commencent à disparaître l'une après les unes après les autres. Et puis là, c'est ça, il y en a une qui, après la première qui disparaît, c'est comme, ah, bon, et puis là, il y en a une qui vit vraiment une espèce de situation traumatisante ou un film comme, mettons, Evil Dead, là, le personnage serait zoned out, traumatisé tout le reste du film. Là, genre, il y a une espèce de séquence avec une tête volante qui lui mord le derrière, puis c'est vraiment fucké. Puis après ça, comme la scène d'après, on réagit pas trop, puis Mac, on pense encore qu'elle est juste sortie,
C'est
puis...
ça, des fois il y a des lignes de dialogue qui tombent, tu sais, elle est où Mac, mais tout de suite après on s'en fout.
Ouais, c'est ça, exactement. Où vraiment, il arrive des affaires, il y a des grosses séquences un peu qui pourraient être justement traumatisantes, puis après ça, on est rendu ailleurs, on a envie de jouer du piano, on joue du piano. Vraiment, donc, comme guidé par un instinct d'enfant. Puis ça fait un film qui est très naïf, mais qui est pas dépourvu d'intérêt, ne serait-ce qu'au niveau du style, puis au niveau visuel. Ça, c'est...
C'est complètement éclaté. Je veux dire, t'as des séquences. C'est tout le temps un jeu vraiment, tu sais. Puis ça provient, selon moi, de son travail dans l'expérimental. Mais comme un Claude Jeudras, un McLaren, etc. Tu sais, il y a tout le temps une volonté de surprendre. Puis donc, mettons, la grand-mère va rentrer dans le frigo en background. Puis tout de suite après, elle va être là en foreground, tu sais, comme sur l'étage du haut. Puis il y a tout le temps des petits jeux comme ça de farfelu. On est quasiment dans un univers proche des Teletubbies ou des, je sais pas, de Sesame Street, là. Il y a comme vraiment, je sais pas, un univers bon enfant, mais en même temps, c'est quand même très violent. T'sais, il y a un piano qui mange les doigts d'une des filles, qui se met à crier.
Ça, c'est une des séquences les plus folles aussi du film, ouais.
Ouais, donc, vraiment un bon trip. Puis, comme on disait tantôt, justement, c'est un film d'artisan. C'est du monde vraiment qui ont créé les effets, t'sais, on caméra, qui ont créé les effets, t'sais, du top motion. Tout y passe, t'sais, vraiment comme sur place. Et bon, évidemment, on est à l'époque pré-CGI. Mais il y a plein d'effets d'optique, il y a plein d'effets de même dessinés sur la pellicule, je pense, à certains moments. Donc, vraiment un film festif, tu sais, comme pour ceux. Je pense que c'est un film qui plaît plus aux cinéphiles que peut-être aux simples amateurs d'horreur, tu sais.
Ce que tu as dit est intéressant aussi, Paul, quand tu as présenté le film un peu, avant qu'on le visionne, c'était que à la sortie, le film, on savait pas trop quel genre de public allait aller le voir, sauf que il y a quand même eu un certain succès au niveau d'un public plus jeune, finalement. Donc les critiques de cinéma de l'époque l'ont bâché, mais en général, ben, les jeunes l'ont suivi. Et puis là, maintenant, donc là, on est 40 ans plus tard, 35 ans plus tard, en tout cas, peu importe. 35 ans plus tard, là, tu sais, ces jeunes-là qui ont visionné le film dans ce temps-là sont devenus justement eux-mêmes des critiques, des personnes d'âge mûr. Et puis là, c'est drôle parce que c'est, je crois qu'aujourd'hui, les lettres de noblesse de ce film-là reviennent en partie parce que les gens ont vieilli, les gens qui ont apprécié le film à l'époque ont vieilli, sont devenus peut-être critiques de cinéma. Et puis là, le film commence à devenir un petit chef-d'œuvre dans son genre, dans le cinéma japonais, justement.
Ouais, puis je pense que c'est un film un peu. Parce que. Tu sais, le cinéma japonais, c'est vaste. Il y a des dizaines de courants, des cinéastes intéressants à suivre. Mais c'est quand même un film plutôt singulier, selon moi. Tu sais, j'ai pas souvent vu d'autres films aussi énergiques et aussi éclatés que ça. Bon, j'ai pas vu non plus beaucoup d'autres films d'Obayashi. J'ai vu quelques-uns de ses courts-métrages qui sont vraiment très bien, là, d'ailleurs. Mais c'est ça, donc c'est un film à la fois singulier et marquant. Donc, une espèce de, tu sais, il appelle ça en anglais « lightning in a bottle », une espèce de miracle qui est arrivé comme ça, par hasard. Un peu toutes les conditions étaient bonnes, étaient réunies au bon moment. Donc, c'est un peu ça, House. Puis justement, le côté un peu film pour enfants, mais film violent, ça me fait penser justement à un film comme Gremlins, que je pense que, tu sais, notre génération... C'est un film qu'on adore, tu sais, que c'est dans la pop culture, tout le monde connaît les Gremlins, tu sais. Puis j'en parlais justement, je demandais ça à ma blonde, elle, qui a pas vu le film, elle sait c'est quoi les Gremlins, puis elle a vu les toutous, etc. Tu sais, c'est vraiment rentré dans la culture populaire. Mais le film Gremlins, dans le fond, là, c'est un mauvais film, si tu y penses. C'est tellement, ben, peut-être pas un mauvais film.
J'ai mal, ben, arrête de parler tout de suite.
Ben, peut-être pas un mauvais film, mais dans le sens que c'est tellement un film, c'est ça, qu'on sait pas comment critiquer vraiment, tu sais. Comment on l'approche, ce film-là, parce que c'est un trip, puis c'est un peu un film qui est un film d'horreur, mais pour les enfants, puis un film à deux niveaux. Puis...
Ben, c'était le premier film, en fait, qui était coté 13 ans et plus là, aux États-Unis, PG-13. Là.
Ouais.
C'est la cote est arrivée pour ça, puis pour Indiana Jones 2. C'était vraiment la période Spielberg où Spielberg commençait à prendre un contrôle sur Hollywood, puis qui commençait à faire ces films-là qui étaient dans l'entre-deux, parce qu'avant ça, t'avais les films pour 18 ans et plus, puis t'avais les films généraux. Mm-hmm. Fait que, tu sais, quand cette espèce d'entre-deux-là est arrivé, ben, il a fallu qu'il trouve la nouvelle cote, puis c'est avec Gremlins, justement, que ça a changé, parce que c'était un peu pour les enfants, mais un peu pour les adultes en même temps. Là.
Il y avait cet entre-deux-là. Ouais.
Ben, c'est ça, exactement. Puis, en tout cas...
Dans les années 80, il y en a eu beaucoup. Juste Labyrinthe, il y a des séquences un peu troublantes. Dans
ouais. C'est la vague de films, de comédies d'horreur, en fait, qui est arrivée. Là. Beetlejuice ouais. aussi. Puis, ouais. Il y en a eu beaucoup, là, un après l'autre. Là.
L'histoire sans fin aussi. C'est des séquences ouais. qui... C'est des films, comme entre guillemets, pour enfants qui osent peut-être traiter de thématiques un peu plus lourdes. Moi, je rappellerai toujours dans l'histoire sans fin, quand j'étais jeune, moi, je braillais quand le cheval il se perd dans les sables mouvants puis tout ça, puis là t'as le personnage puis là, mais ça nous amène dans des zones où peu de films pour enfants le faisaient. Oui, je veux dire, tu sais, Bambi le faisait peut-être aussi, puis aller faire peut-être pleurer ou toucher une corde sensible aux enfants, c'était pas nouveau, mais de montrer comme en prise de vue réelle, tu sais, un cheval, juste de voir la mort d'un cheval, tu sais, comme ça, c'est pas banal, une séquence comme ça, ça marque l'imaginaire.
Mais c'est beaucoup Spielberg, si tu checkes, parce que toute sa période avec Poltergeist, avec Who Framed Roger Rabbit, c'est tous des films qu'il produisait, mais il y avait tout le temps ce facteur-là, scary. Je sais pas si vous vous souvenez de Roger Rabbit, le Judge Doom, là, avec les... qui se fait écraser par un rouleau compresseur puis les yeux pop-out, là, ouais. t'as les yeux en vitre qui pop-out. Ouais. C'est tellement, genre... Moi, ça m'a fait peur quand j'étais petit, mais ouais. j'aimais ça en même temps que ça me fasse peur, parce que c'était comme le petit edge de plus que ça me prenait pour... que ça me prenait au cinéma, là.
Mais le film House, je pense pas que c'est tant pour les enfants, parce que, tu sais, il y a vraiment mané, il y a une espèce de marée de sang, puis ouais. là, on est quand même dans Shining l'horreur. Un peu, là. Ouais, c'est ça, tu sais, on est quand même un peu plus dans l'horreur. Tu sais, je pense que ça prenait quand même, ça prenait des couilles pas mal là, pour aller voir ça quand t'avais 8-9 ans, mettons, là, ouais. au Japon, dans cette année-là.
Ouais, c'est ça. Je sais pas ce qui s'est passé.
Je sais pas ce qui s'est passé.
Rémi, t'es-tu vivant?
Ouais, c'était pas de mon bord.
Okay. C'était chez moi.
Ok, bon. House de Obayashi, 1977. Sinon, moi, il y a un autre film de d'Halloween que j'ai le goût de mettre sur le spotlight. Un gros coup de cœur. Déjà, je pense on peut parler d'un nouveau classique. Je suis à peu près le seul qui l'avait pas vu. Let the Right One In de Thomas Alfredson. Je parle de la version originale suédoise de 2008 de ce film de vampire. Vous deux, vous l'avez vu, right?
Oui.
Hey, moi, ça fait trop longtemps, je peux même pas en parler.
Mais c'est ça, tu l'as vu quand c'est sorti, dans le fond, là.
Ouais, ben je me souviens, j'ai des images en tête. Puis j'ai pas, grosso modo, la trame narrative, mais il faudrait vraiment que je le réécoute, là, c'est pas assez frais dans mon esprit, là.
Ouais, donc pour ceux qui l'ont pas vu, c'est ça, c'est une espèce de. Ben, c'est pas mal un film de vampire très classique hein, dans la mythologie puis la manière que c'est amené. Donc, le vampire dans ce film-là, c'est une petite fille de 12 ans qui est un peu, c'est ça, marginale, puis elle va pas. Elle n'ose pas vraiment tuer, tu sais. Elle a une espèce de compagnon, une figure paternelle qui lui mène, là, qui lui apporte du sang, mais elle, vraiment, c'est en dernier recours, là, tu sais, qu'elle veut tuer. Et elle se lie d'amitié, en fait, avec un jeune garçon de l'école locale, qui lui, c'est une espèce de rejet à l'école, qui se fait écœurer. Donc, les deux, c'est un peu des personnages marginaux qui développent une relation. Puis, le film est autant sur la romance entre ces deux-là que vraiment dans le registre d'horreur. Donc, ça, je trouve, c'est déjà très bien. Puis, il y a vraiment un côté classique au film, tu sais, un côté vraiment là,
D'ambiance, c'est que les films qui
c'est
misent sur
ça.
l'ambiance, ça nous ramène toujours aux films des grands maîtres, ou tu sais,
Ouais.
les romans de Polanski, ou ce genre de films-là, c'est ça. Puis en fait, c'est que c'est un peu un fourre-tout, Let the Right One In, comme tu l'as dit, c'est un peu romance, mais en même temps, c'est très drame aussi, c'est très dramatique. Puis il y a comme le côté aussi coming of age, on prend quand même beaucoup d'influence de ce courant-là, si on veut. Puis la toile en toile de films de vampires, d'horreur. Donc, ça crée un amalgame assez fort. Moi, je dois avouer que Let the Right One In, je trouve qu'on dirait qu'il est peut-être arrivé à un moment de disette un peu trop extrême dans le monde du film d'horreur. Donc, il a peut-être été adulé un peu trop parce que justement, on avait besoin d'un champion à cette époque-là. Peut-être. Toi, tu as l'air d'avoir profondément aimé. Moi, je t'avouerais que j'ai certains bémols sur le film que j'ai trouvé un petit peu mou. Par contre, c'est vrai qu'une des forces indéniables, c'est vraiment l'ambiance. Si on embarque dans ce film-là comme on embarque dans. Comme on va se promener dans une tempête de neige, on dirait.
Ouais.
Je sais pas trop comment le
Ouais.
dire, mais.
D'ailleurs aussi, je pense qu'une des forces de ce film-là et de certains classiques, c'est vraiment le souci de la composition, le souci de faire des beaux plans. Parce que tu sais, il y a tellement de films d'horreur que, tu sais, depuis, je sais pas moi, depuis Texas Chainsaw Massacre, qui jouent sur le côté lo-fi, caméra épaule, on voit pas grand-chose, c'est peurant, il fait noir, il y a des cris partout. Ça, au contraire, hein, c'est un film, là, maîtrisé, c'est très beau, la cinématographie. On utilise les décors et la forêt suédoise, c'est à bon escient, on est l'hiver. Donc, il y a ce côté-là vraiment très calculé, qui fait plaisir à voir justement dans un film d'horreur. Ça fait un peu changement dans un sens de nos jours. Et je me suis rendu compte justement le côté nordique, le côté hivernal, parce que tu sais, l'hiver c'est la saison morte, ça se prête bien justement à toutes ces histoires de cadavres et de, tu sais, le sang sur la neige, c'est tout le temps beau. Puis je me suis rendu compte que trois de mes films d'horreur préférés, en fait, utilisent justement ce décor nordique, soit The Shining, The Thing et maintenant Let the Right One In. Donc, il y a ce côté-là, justement. Et c'est étrange que, justement, on est au Québec, au Canada, il n'y a pas plus de films canadiens et québécois qui utilisent l'hiver, finalement. Parce que, bon, les conditions de tournage, évidemment, c'est pas évident. Mais même les films de Cronenberg, là, ça se passe pas l'hiver, là.
Ouais, c'est ça, ou tu sais, même sur le seuil ou des films comme ça qui essayent, tu sais, c'est vraiment très été, là. C'est drôle, justement, ça aurait grand gagné. D'ailleurs, ce film-là aurait tellement gagné à être tourné l'hiver, moi, je pense. Mais bon, ça, c'est une parenthèse, mais ouais, peut-être. C'est vraiment drôle que tu dises ça. J'en parlerai pas aujourd'hui parce que c'est le fun qu'on se consacre plus à nos films d'Halloween, mais j'ai vu Chasse au Goddard d'Abitibi qui va sortir vendredi. Puis ça, c'est un film, justement, une des très grandes forces du film, c'est vraiment d'utiliser l'hiver de façon optimale. Mais en tout cas, j'y reviendrai. Mais c'est vrai que c'est tellement une richesse ici, puis c'est tellement. En même temps, puis aussi, je trouve que ça peut faire en sorte qu'on vend bien nos films parce que c'est notre forme d'exotisme ici. Tu sais, le cinéaste international qui a envie de voir des films, de voyager à travers les films, une tempête de neige, une souffleuse ou ces affaires-là, c'est exotique. Tu sais, on va se le dire. Fait que, non, c'est sûr, c'est un élément à miser dessus.
Ouais, non, effectivement. Fait que toi, de Let the Right One In, tu trouvais que c'était dans les rythmes, peut-être, que c'était, ou peut-être un trop grand classicisme, ou.
Ben, je me rappelle plus c'est quoi exactement que. Parce que moi aussi, je l'ai vu lors de sa sortie. C'est quand même un film de quoi? 2008, si je ne me trompe pas. Ça fait quand même peut-être 5 ans. Puis vois-tu, puis c'est drôle, Rémi aussi, tu dis, je l'ai vu, ça fait longtemps. Ça fait seulement 5 ans dans un sens. Puis on dirait que je m'en rappelle pas tant que ça. Je me rappelle de certaines séquences. Tu sais, je me rappelle peut-être des. Il y a certaines pointes de violence qui sont assez. qui détonnent, puis dans le bon sens, là, qui viennent te brasser, ça, ça m'est resté. Il y a vraiment, tu sais, moi, je me rappelle vraiment des images, on dirait, tu sais, les deux jeunes qui se promènent dans la cour devant chez eux, puis qui se rencontrent dehors à ce moment. Donc, c'est vraiment une ambiance mais dont je me rappelle, sauf que l'histoire, c'est pas essentiel que l'histoire soit si forte dans un film comme ça, mais l'histoire est très banale, parce que vraiment, je suis même plus capable de te parler d'aucun pivot dramatique ni rien, vraiment, dans le fond. Donc, c'est peut-être juste l'espèce de mollesse, justement, au niveau peut-être de la trame narrative.
C'est quand même drôle de critiquer Fineureur son scénario, parce que je pense que s'il y a quelque chose... Tu sais, s'il y a un côté, je sens que les Fineureurs, souvent, c'est secondaire, c'est l'histoire, tu sais.
Oui, mais il nous est vendu quand même beaucoup comme un drame. Puis je pense que c'est ça qui fait son attrait, c'est ça qui fait que on dirait que c'est un film d'horreur pour ceux qui aiment pas les films d'horreur un peu, tu comprends? C'est un peu un anti-film d'horreur à plusieurs niveaux. Même si ça utilise un certain côté classique de film de fantôme, c'est pas un film de fantôme, c'est un film de vampire, mais en fait, c'est justement, c'est ce que le film fait, c'est prendre une espèce d'ambiance de film de fantôme avec une toile de film de vampire qui est complètement anti-courant de ce qu'on peut voir dans les Twilight ou dans ô combien de films de vampires, tu sais, qui vont miser sur le côté un peu plus sexy du vampire. Là, on est plus sur le côté caché, occulté. Donc, il y a quand même quelque chose de très intéressant dans ce que ça fait et dans ce que ça décide de ne pas faire. Ça, c'est sûr.
Puis il y a aussi un commentaire qui me rappelle un peu le film La Chasse, le film danois. Il y a une espèce de tout un côté au niveau de l'étranger qui arrive dans le village, tu sais, le nouveau voisin, puis là, les gens l'apprécient pas trop, puis justement, tu sais, c'est comme un... Ben là, il vient avec une vampire, puis il y a tout ce côté-là un peu, c'est petit village là, qui je trouve qui rajoute aussi à l'ambiance malsaine du film, puis je trouvais que c'était très bien exploité. Donc bref, on est quand même d'accord que c'est, au minimum c'est un bon film à voir. Pour moi c'est un excellent film d'horreur. Alors on espère que peut-être vous avez quelques suggestions pour avoir un bon party d'Halloween. Sinon aussi un autre événement, hein, c'est en fin de semaine à l'Impérial le Rocky Horror Picture Show, mais bon, ça pour ceux qui, je pense que la plupart des gens savent c'est quoi, on n'a pas besoin de rappeler, ça arrive à chaque année.
Je l'ai vu cinq fois en salle là, ouais. J'ai vu 4 fois à Montréal, 2 fois à New York, fait que j'étais assez conditionné. Je vais essayer d'aller cette année, j'ai manqué l'année dernière, mais
ben, c'est demain soir, c'est là, c'est ouais, le... ouais. Ouais.
C'est sur 3 soirs là.
Ben, c'est pas demain en fait, c'est jeudi, vendredi, samedi.
Ah! Ok, bon, excusez-moi, mon Dieu.
Ouais, donc, voilà. Alors, c'est ça fait le tour de nos critiques. La semaine prochaine, on va parler de La Chasse au Godard d'Abitibi, d'Éric Morin. Oui. Et, fait qu'en DVD, Rémi, qu'est-ce qui sortait aujourd'hui, le 28?
Pas grand-chose, hein. J'ai eu besoin de votre aide pour compléter mon top 3, tu sais. Il y a Monsters University, qu'on avait déjà discuté. Je pense que tout le monde sait pas mal c'est quoi le film, mais ça vaut la peine de l'attraper en DVD. Puis ensuite, il y a Tabou et Chronique sexuelle d'une famille d'aujourd'hui.
Et en salle, on est enfin vraiment... Parce que là, c'est ça, il y avait... tous les films d'horreur pendant le mois d'octobre, évidemment. Et novembre se pointe nos portes. Vendredi, on est le 1er novembre. Et on sent vraiment que les studios là, réservaient leurs grands films prestigieux pour le début du mois de novembre.
Pour les galas, pour les prix, ça c'est sûr. Donc moi, j'ai un top 3 très facile à faire, mais je veux seulement faire une mention. Supposément que le film est vraiment pas bon, mais il y a le film Diana d'Olivier Hirschbergel avec Naomi Watts, qui est dans supposément une de ses grandes performances. Je pense que c'est consacré que moi, j'aime beaucoup Naomi Watts. Donc voilà, il y a ça.
Je pense que c'est un cas de la dame de fer. Une performance exceptionnelle dans un film...
Dans un film médiocre. Ça se pourrait. Puis, en tout cas, j'ai lu, j'ai regardé un peu quelques consensus critiques.
Ouais, le film se fait démolir.
Mais Naomi Watts, ça s'en sort quand même indemne. T'sais, fait que dans un sens, un peu comme The Impossible, en fait. The Impossible, c'était tellement un mauvais film. Mais Naomi Watts, là, j'ai rien à redire. Rien.
Ah, c'est une grande actrice.
Ouais. Vraiment. En tout cas, donc, on a Chasse au Godard d'Abitibi. In a nutshell, là, très 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 rapidement, c'est vraiment bien, mais sans plus, là, c'est pas le film québécois qui va redéfinir les films québécois, mais on dirait que c'est un film, tu sais, c'est le petit film, ben, le film québécois qui est peut-être un peu moins à l'avant-scène, encore plus indépendant, plus low budget, mais qui va quand même aller trouver son public. Allez le voir, juste allez le voir, puis on s'en reparle la semaine prochaine. Il y a 12 Years a Slave de Steel McQueen, le gros film favori, pressenti peut-être pour la course aux Oscars. Donc, qui avait eu un écho génial à Toronto, qui avait gagné à Toronto. Et finalement, nous avons le film Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée avec Matthew McConaughey et Jared Leto. Donc, un gros week-end au cinéma. Ouais. En fin de semaine.
D'ailleurs, c'était la première du film à l'Impérial hier soir de Dallas Buyers Club et les échos sont absolument géniaux. Bon, c'est sûr que dans les premières, la plupart des gens sont toujours oui, c'est très bon, puis on applaudit, etc. Mais tu sais, même les critiques américaines, etc., tout le monde est d'accord que c'est un des gros films et on pressent on prédit
Potentiel,
une
ouais.
nomination aux Oscars pour Matthew McConaughey au minimum. Sinon, peut-être aussi une nomination pour Jared Leto en tant qu'acteur de soutien. Sinon, petite suggestion répertoire, je vous invite le 8 et 9 novembre au Cinéma du Parc. C'est le 30e festival du film japonais à Montréal, là, festival entre deux guillemets, là, je trouve, là. Mais bon, il y a 4 films sur 2 jours. Surtout, c'est une initiative du consulat du Japon au Québec. C'est gratuit, en fait. Donc, c'est offert gratuitement 4 films japonais. J'ai regardé, c'est vraiment des cinéastes que je connais pas et des films qui me disent rien. Mais justement, c'est là-dessus souvent que les consulats travaillent, tu sais, à essayer de pousser des films d'indépendants qui sont moins connus. Parce que bon, tu sais, nul besoin de proposer un Takashi Miike gratuit, là, le monde sait c'est qui. Donc, ben, ça vaut la peine. Et nous, ben, on va se quitter sur la bande-annonce de Chasse au Godard d'Abitibi pour un peu essayer de découvrir qu'est-ce que c'est ce film. C'était notre point de vue. Mon nom est Paul Andriot et j'étais avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Leplante.
Je t'aime. T'as pas de rêve.
J'aimerais ça partir. Sortir de ma petite ville, là, voyager, voir le monde.
C'est ici, Norkanda?
Norando.
Avec moi dans nos studios, un très grand cinéaste de réputation internationale.
Paul Marie.
Bonsoir, Marie.
Enchanté, monsieur.
Toi. J'aimerais que ça fasse du cinéma. C'est la caméra. C'est avec ça qu'on va filmer la face du monde.
Parole au peuple. Il faut que les affaires changent. Il faut faire les bons choix.
Pas besoin de me faire ça. Sans toi, je suis perdu, moi, là.